Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Le reggae, une musique politique. Bonjour à tous et toutes. Nous allons aujourd'hui partir en Jamaïque pour nous intéresser au reggae et à la politique derrière la carte postale caribéenne. La Jamaïque, 2,7 millions d'habitants aujourd'hui, jadis sous domination espagnole puis britannique, qui obtient son indépendance en 1962. C'est un pays très pauvre, avec dans les années 60 plusieurs bidonvilles, mais c'est un pays musicalement riche, qui produit du ska, du rocksteady puis du reggae. Reggae dont Bob Marley, Max Romeo, Lee Perry ou Jimmy Cliff sont les figures les plus connues. Le reggae est adossé à une foi et à une mystique, le rastafarisme, et il est adossé à une philosophie politique, celle du retour des Noirs en Afrique, prônée par Marcus Garvey, avec une fascination pour un berceau mythique en Afrique, symbolisé par l'Éthiopie et son aiguse divinisée, Haïlé Sélassié. Le reggae est non seulement une musique populaire, mais une musique politique, qui parle des problèmes sociaux de la Jamaïque, de la violence, et même de programmes politiques, quand elle est instrumentalisée par les partis, le People's National Party à gauche et le Jamaican Labour Party à droite, issus d'une dissidence en 1943. Instrumentalisation renforcée à partir de l'élection du socialiste Michael Manley en 1972. À cette date, l'île se trouve prise dans la guerre froide entre surveillance américaine qui craint une Jamaïque rouge et tentation cubaine de Manley qui semble confirmer ses peurs. Le reggae est une musique engagée qui ne saurait se réduire à la figure internationale de Bob Marley ou à la ganja. En réalité, ce style musical épouse et accompagne tous les soubresauts politiques du pays dans les années 70. À une politique publique semble correspondre une chanson. Mais l'affrontement entre les deux grands partis n'est pas que musical. Leurs partisans règlent leur compte dans la violence. Une violence politique qui devient endémique. On tirera même sur Bob Marley en 1976. On tire aussi sur Michael Manley. Les morceaux reggae, y compris les plus connus, font tous des allusions aux événements du moment sans que le public occidental profane ne les saisisse. Le reggae est une musique à clé pour emprunter une formule à mon invité, Thibaut Ehrengart. Un étendard identitaire, rempart contre la folie babylonienne et l'une des rares voix de la raison au milieu d'une cacophonie de sang, écrit-il. C'est lui qui va nous accompagner pour décoder les références politiques du reggae. Bonjour Thibaut Ehrengart.
Bonjour.
Thibaut Ehrengart, vous êtes journaliste et éditeur, patron de la maison d'édition Dread. Vous êtes spécialiste de la Jamaïque à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont l'un très remarqué sur la guerre des gangs. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui s'intitule « Reggae et politique dans les années 1970 » chez Dread Édition et il vient d'être publié là en juin. Alors je voudrais vous poser une première question, Thibaut Ehrengart, sur un élément du folklore, mais pas seulement jamaïcain, qui est la question de la marijuana, qui est la question un peu, enfin voilà, qui est l'objet ou la pratique un peu cliché. Je voudrais qu'on pose cette question pour, au fond, faire le point et puis l'évacuer, quoi. Alors quel est le rapport de l'île avec la marijuana? On fume, on en produit, et en même temps c'est puni pénalement depuis le début du XXe siècle.
De moins en moins, là, maintenant, avec il rentre dans le sillon de l'Amérique qui est en train de légaliser petit à petit, et c'est dépénalisé, on va dire, en Jamaïque. Mais si vous voulez évacuer la marijuana, ou la ganja, comme ils l'appellent, il faut savoir que c'est un élément central de la vie jamaïcaine, d'abord. Elle est importée dans l'île à la fin du XIXe siècle par les travailleurs indiens qui viennent renforcer la population de l'île, et puis elle est adoptée très vite par les premiers mouvements séditieux, dont les Rasta, en fait, qui dans les années 20-30 commencent déjà à former des communautés séparatistes. Ils vont dans les collines de Jamaïque et puis ils essayent de s'organiser. C'est le cas de Leonard Howell, le premier Rasta, ou considéré comme tel en tous les cas. Et la ganja, la marijuana, est au cœur de leur organisation économique et spirituelle.
Économique
parce qu'ils la font pousser et qu'ils la vendent pour gagner de l'argent. Ouais. Spirituelle parce qu'elle est fumée dans une optique plus ou moins sacrée.
C'est ça.
Et parce qu'en fait, voilà, c'est comme une drogue de chaman qui vous met dans des états un peu méditatifs. La marijuana n'est pas hallucinogène si elle n'est pas prise en quantité astronomique, etc. Donc c'est pas du tout une drogue qui rend fou, mais c'est voilà, elle permet comme ça de réfléchir, de penser pendant des heures, ce qu'ils adorent faire. Ensuite, la police, donc, profite de la pénalisation de la marijuana à cette époque-là pour contrer le mouvement Rasta, faire des raids policiers sur leur communauté et les éclater à travers toute la Jamaïque. Certains vont se retrouver dans les bidonvilles de Kingston, où ils vont rencontrer la jeunesse turbulence des Rudies, c'est-à-dire les Rude Boys. Mm-hmm. Et puis cette envie comme ça, cette révolte va rentrer en résonance avec le message mystique des Rastas. L'herbe, ils en fument tous, énormément, et on fume en Jamaïque comme on boit du vin en France, avec plus ou moins de modération, avec plus ou moins d'appréciation, mais on en fume énormément, et elle fait partie du quotidien, vraiment. Ça a toujours été le talon d'Achille des Rastas, puisque vraiment, comme ils la considèrent comme une herbe sacrée, ils le font même pas en catimini.
Oui, c'est assumé, ils posent sur les couvertures, sur les pochettes des disques, avec ce qu'on appelle des spliffs, voilà. Des espèces d'énormes joints.
C'est un gros argument, vraiment commercial, pour Highland, etc. Peter Tosh, le plus grand avocat de la plante, posait carrément dans un champ de ganja, etc. Mais bon, les gens qui connaissent un peu ça savent que c'est ce qu'on appelle une drogue douce. Hein. On n'est pas là dans la cocaïne.
Oui, c'est pas ni de la cocaïne ni du crack.
Et absolument c'est vraiment, pas. Ouais. Les gens en fument pendant des années. Moi, j'en côtoie et qui en fument régulièrement toute la journée et qui sont pas fous. Hein. Il y a pas de. Maintenant, quand la cocaïne est arrivée en Jamaïque, un petit peu grâce à la CIA à la fin des années 70, début 80, ça a été une autre histoire. Hein. C'est pas le même genre d'effet.
Là, on a eu plus un phénomène à l'américaine de consommation de drogue qui a effondré les gens et qui a pourri les ghettos.
En même temps, comme on le voit dans le film de Harvey Beckham, la ganja, donc, dès les années 60, est au centre d'un petit trafic qui permet à l'île de vivre aussi, puisque bon, c'est une île pauvre qui a pas beaucoup de ressources. Ils en cultivent, ils l'envoient aux États-Unis ou en Europe, et puis ils récupèrent de l'argent. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui en vivent là-bas, donc c'est assez commun.
Je voudrais qu'on dise un mot, Thibaut Ehrengard, du rastafarisme là qu'on a mentionné et que vous avez mentionné à l'instant, qui est toujours un mouvement un peu compliqué à saisir en France. Est-ce que c'est une religion, une foi, une mystique, un millénarisme? Parce que je disais que c'était porté aussi par une dimension politique, ça renvoie à la négritude jamaïcaine ou à la négritude en général. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce mouvement, le rastafarisme?
C'est un patchwork de tout ce que vous venez de citer. C'est vraiment, ils se sont inspirés de tout ce qu'ils ont pu trouver. N'oublions pas que c'est né. Alors, il y a des intellectuels à la base. Hein. Il y a Marcus Garvey, mais qui lui n'était pas rasta, mais lui qui est un grand intellectuel, qui savait exactement ce qu'il faisait. C'est sans doute l'homme noir le plus important du XXe siècle au niveau de combat des droits, puisque tous se sont inspirés de lui, aussi bien Malcolm X que les Black Panthers ou que Martin Luther King. Il est vraiment à la base de ces mouvements-là. Il prophétise que Haïlé Sélassié, en étant couronné, tend la main vers la diaspora. Et en Jamaïque, on interprète sa prophétie comme l'annonce du Messie. Le Messie biblique qui revient dans les Révélations, n'est-ce pas, où il est annoncé avec sur la cuisse l'écriture le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judée, etc., qui est le titre officiel pris par Haïlé Sélassié lorsqu'il est couronné en 1930, puisque l'Éthiopie, comme vous savez, est chrétienne depuis le 4e siècle. Donc il prend ce terme biblique qui rentre en résonance totale avec les croyances rasta, qui en font à ce moment-là le Messie réincarné, le Christ revenu, et il est noir en plus. Donc Dieu est revenu, il est noir, il rend l'Éthiopie et il rend au noir sa véritable personnalité, son destin, de peuple bafoué, de peuple mis en esclavage, de peuple meurtri, mais en fait élu.
Donc il y a le retour d'une fierté noire, mais avec aussi chez Marcus Garvey l'idée que peut-être les Noirs pourraient à un moment revenir en Afrique.
C'est fondamental dans sa perception des choses. Les Noirs doivent s'unir où ils sont, les Noirs de la diaspora, s'unir pour pouvoir rentrer en Afrique et prendre leur destin en main. Marcus Garvey a une enfance très difficile, un père très dur, très rude, et il ne tolérait aucune preuve de faiblesse. Et pour moi, l'une de ses phrases les plus forte qu'il est plus prononcé, surtout dans le contexte rasta et puis aujourd'hui identitaire, c'était, bon, il parlait de race, hein, faut remettre dans le contexte, c'est début 20e siècle, son père était esclave, enfin bon, il faut bien remettre dans le contexte historique. Mais il disait, si les Noirs ne sont pas capables de faire ce que les autres races ont fait pour survivre, alors ils mourront. Donc il y a vraiment pas, aucun moment il s'apitoie, il y a pas de misérabilisme, j'aurais des nous. Il est vraiment très volontaire comme ça, et bon, il va même voir le Ku Klux Klan à une époque en lui disant, vous voulez pas de noirs en Amérique? Les noirs ne veulent pas rester en Amérique, est-ce qu'on peut pas s'entendre? C'était la plus grosse erreur politique qu'il ait faite à ce moment-là, puisqu'à l'époque, il faut pas oublier qu'il y a les lynchages de masse, qui ont lieu, donc là il va voir carrément pire que les ennemis des noirs, il va voir ses assassins.
Oui, des tueurs. Ouais.
Voilà, ils ont pas. Il a été incompris là-dessus. Ça a vraiment marqué le début de la fin pour lui.
Sur la culture jamaïcaine, il y a quelque chose qui est extrêmement central en Jamaïque et on le sait, on le sent. C'est la musique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une pratique générale et qui est à la fois identitaire, qui est la marque de fabrique de la Jamaïque. Est-ce que vraiment on peut dire ça, c'est-à-dire que la musique est centrale, très importante dans la vie des Jamaïcains?
cruciale. Elle l'a été surtout, bon, aujourd'hui toujours, mais c'est un peu moins. Aujourd'hui, bon, les choses changent, hein, avec l'industrie du disque notamment, la manière d'écouter de la musique, mais elle reste prépondérante. Elle naît dans les années 50 dans la rue, avec des sound systems.
Alors, sound system, on explique, on met une espèce de gros tape, enfin des enceintes.
Sur le trottoir.
Sur le trottoir, et tout le monde danse, on s'installe. Et il y a même des concurrences entre sound systems.
Des concurrences parfois violentes.
Violentes.
Puisqu'on vend de la bière, on peut faire payer de temps en temps les entrées. Enfin bon, il y a du business derrière tout ça. Donc c'est organisé très tôt, très sérieusement. Mais ça reste naturel. C'est effectivement les enceintes posées sur le trottoir, tout le monde vient, on danse, etc. Et puis c'est un lieu de socialisation très fort. C'est un lieu où on vient écouter de la musique, on vient écouter petit à petit ce que raconte aussi la musique, puisque la Jamaïque, surtout à cette époque-là, est un pays à l'illettrisme galopant. On pense que 50-60% de la population aux années 60 est illettrée, quoi. Donc on vient prendre des nouvelles de ce qui se passe. Mmh. La Jamaïque est une île, c'est un pays qui est à la fois fier et inquiet de sa spécificité, qui est sûr que personne ne peut les comprendre, mais qui en même temps rêverait qu'on les comprenne. Donc voilà, un peu comme la plupart des peuples indiens, ils sont un peu pris comme ça, d'où le patois, hein, qui est une langue un peu particulière. Ils en sont à la fois très fiers, et puis en même temps, ils la méprisent un peu, puisque c'est pas du bon anglais, vous comprenez. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est symptomatique. Et donc petit à petit, la musique joue un rôle social, lie les gens, et puis va vraiment à un moment cristalliser des tendances politiques, sociales, politiques, notamment avec les Rude Boys dans les années 60, puisque c'est le ska qui va d'un coup leur permettre de raconter leur vie. Et une vie de misère, une vie urbaine qui n'intéresse personne sauf eux, et qui leur permet de se reconstruire une identité petit à petit à travers la musique. Et puis le mouvement va s'accélérer avec l'entrée de Rasta dans la musique, au début des années 60, puis à la fin des années 60, quand ça devient rocksteady et reggae, quand le Rasta devient central, alors là, carrément, ça devient l'outil de propagande privilégié de Rasta. Il n'y a pas de reggae sans Rasta.
Ouais, ça marche ensemble.
Et il n'y a pas de Rasta sans reggae. Mmh. Sans le reggae, le Rasta serait une espèce de secte qui n'aurait pas beaucoup fait parler d'elle.
Influence.
Et le reggae serait resté, je pense, une musique locale. La force de Marley, quand il monte sur scène la première fois pour conquérir le monde, entre guillemets, c'est vraiment, d'une part, ses dreadlocks, c'est-à-dire sa coiffure absolument fascinante, et puis ce qu'il raconte, sa force de conviction. Marley, il est vraiment en croisade, et c'est ce qui anime le reggae.
Alors, on gouverne d'ailleurs en s'appuyant sur la musique qui permet d'expliquer des idées à la population. C'est ce que fait Michael Manley autour de son programme socialiste. On va écouter une chanson de Max Romeo datant de 1974 et explicitement intitulée « Socialism is love ». Socialism is love.
You're asking what is socialism and what it really means. It's equal rights for every man, regardless of his strength. So don't let no one fool you,
Joshua said.
Listen as I tell you,
Joshua said.
No man are better than none. Socialism is love between man and man. Socialism is
love for your brother.
Socialism is
linking hearts and ends.
Would you believe it?
Poverty and hunger is what we're fighting.
Socialism is
sharing with your sister.
Socialism is
people pulling together.
Would you believe me?
Love and togetherness, that's what it means.
Mr. Bigger trembling in his shoes, saying he's got a lot to lose. Don't want to hear about sufferer at all.
Joshua said,
one man have too many, while too many have too little. Socialism don't stand for that, don't stand for that at all. Socialism is
love for your brother.
Socialism is
linking hearts and ends. Poverty and hunger is what we're fighting.
Socialism is
sharing with your sister.
Socialism is
people pulling together.
Would you believe me?
Love and togetherness, that's what it means.
La La valeur de l'homme, le reggae, une musique politique. Nous sommes en compagnie de Thibaut Ehrengart. Thibaut Ehrengart, un commentaire sur cette chanson un peu alors matricielle de tout notre propos aujourd'hui, hein, sur la politique et le reggae.
Une chanson absolument fascinante en ce qui concerne les rapports entre la politique et le reggae. Socialism is love, c'est pas God is love, c'est socialism, le socialisme c'est l'amour. 1974, Michael Manley, élu premier ministre en 1972, peine à expliquer son concept de democratic socialism, qui n'est pas très clair pour lui non plus d'ailleurs, soyons honnêtes. Et donc il envoie à l'attaque son représentant musical, Max Romeo, qui pour les petites gens va leur expliquer simplement que le socialisme c'est pas compliqué, le socialisme c'est l'amour.
C'est l'amour, donc, c'est ça les paroles. Hein,
voilà, chacun aide l'autre, les riches ont peur, ils tremblent dans leurs chaussures, aujourd'hui tout change.
Oui, le socialisme c'est l'amour pour l'amour pour vos frères,
L'union des arts. Des mots simples sur une idée compliquée, puisque democratic socialism est très complexe, et puis surtout une com extraordinaire. Ouais. Vous pouvez pas rêver de mieux pour toucher les gens dans la rue qu'une chanson reggae chantée par Max Romeo, qui à l'époque est un des artistes les plus impliqués dans le reggae. Cette chanson, elle est extrêmement intéressante puisqu'elle est produite par Pat Cooper. Pat Cooper qui est un personnage très obscur dont moi j'ai vraiment retrouvé la trace juste avant ce bouquin, et pendant des années j'ai cherché en vain pour savoir qui était ce mec-là, qui a eu un label au début des années 70, il produit les plus grands artistes reggae, Abyssinian, premier album, Pablo Moses, premier album, Bob Andy, Max Romeo, l'album où il apparaît avec une fossile et un marteau dessus, et puis il disparaît. En 1975, il va en Angleterre, puis on sait plus ce qu'il devient, et on n'a jamais trop su ce qui est arrivé à ce mec-là, et enfin j'ai retrouvé sa trace, malheureusement il est mort, mais sa veuve m'a bien expliqué, et en fait ce type-là, depuis les débuts des années, la fin des années 60, est clairement au service du PNP, il travaille pour eux, ils travaillent pour leur revue, ils voient Michael Manley tous les matins pour discuter de ce qu'ils vont faire, etc.
C'est vraiment un relais politique, musical.
Et il se met dans la musique au début des années 70. Sa veuve assure qu'il n'y avait pas de lien direct financier, ce qui bien entendu me paraît pour le moins suspect. D'ailleurs, ce morceau, il ne sort pas absolument dans l'anonymat, puisqu'en 1975 ou 74, Michael Manley a 50 ans, et que pour fêter l'événement, il reçoit officiellement devant les photographes Max Romeo, qui lui remet son 45 tours, Socialism is Love, devant les photographes, photo est prise, publiée.
Oui, c'est explicite, là.
La com est partie, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais. Et dans la chanson, alors Michael Manley, il s'appelle Joshua, enfin c'est son petit surnom, si
j'ose dire. Ils ont tous un surnom,
mais les avec cette dimension biblique aussi.
Obligatoire. Tous les politiciens jamaïcains ont ce qu'ils appellent le syndrome messianique, c'est-à-dire qu'ils doivent être reconnus comme des personnages hors du commun, capables de changer les choses par eux-mêmes. C'est hérité de l'ère coloniale où le gouverneur envoyé par le roi pouvait décider du haut, imposer le changement vers le bas, et non pas l'inverse qui se fait dans un processus démocratique normal, dirons-nous, ou rêvé.
Qui fonctionne, ouais.
Mais en tout cas, voilà, lui, il a le pouvoir d'imposer son choix. Et donc, les Jamaïcains recherchent toujours des personnages comme ça. Malcolm Manley en fait partie, il est charismatique, il est beau, c'est vraiment un JFK jamaïcain, il parle vraiment avec une aisance, peut-être d'ailleurs un peu trop d'aisance, puisque parfois il va un peu trop loin, mais il a vraiment le truc, et en plus il a son surnom forcément biblique, puisque il a beau lorgner vers le socialisme, etc., il n'est pas question d'être athée, et en menant une espèce de marche contre le gouvernement dans les années 60, il aurait prophétisé la chute des murs de la radio gouvernementale, machin.
Comme le mur de Jéricho.
Voilà, et donc il a été assimilé à Josué en français, donc Joshua.
Ouais.
Ce qui est intéressant, puisque c'est le successeur de Moïse, c'est lui qui fait la guerre pour installer son peuple en terre promise, une fois qu'il a atteint la terre promise. En étant élu, le peuple noir jamaïcain atteint la terre promise. Maintenant, il va falloir se battre pour pouvoir s'installer. Et ça va être 8 années d'un combat acharné et pour le coup vraiment sanglant à beaucoup d'égards.
On va en parler. Vous disiez à l'instant, Thibaut Ehrengart, qu'il n'était pas question d'être athée. Il n'est pas non plus question d'être apolitique. Et ce qui est fascinant et en même temps très effrayant, c'est que ce combat entre les deux principaux partis va faire beaucoup de morts. Il y a ce qu'on voit de loin comme étant une guerre des gangs. Et vous dites très bien dans votre ouvrage que ce n'est pas une guerre des gangs au sens où on l'entend par exemple dans la guerre des gangs américaine, c'est une guerre entre des factions politiques, chacune appartenant à un parti, et en même temps vient se greffer là-dessus de la mafia ou des gangsters, disons, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a une tension très forte, les deux parties instrumentalisent la rue pour compter leur nombre de divisions.
Ouvertement, c'est la spécificité de la violence jamaïcaine, elle est institutionnalisée dès le départ, c'est-à-dire que Kingston, la capitale capitale va être divisé en quartiers. Chaque quartier envoie un représentant au Parlement. Donc chaque quartier va tenter, chaque politicien va tenter de mettre la main sur un quartier.
Pour contrôler
une fois qu'il aura ce quartier, il sera élu à jamais. Ouais. C'est le cas d'Edward Siaga du GLP qui lui va carrément raser des bidonvilles, faire reconstruire en dur et loger dans ses nouveaux logements ses supporters exclusivement. Il va obtenir ce qu'on appelle une garnison, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'armé avec des soldats, c'est Tivoli Gardens, où il va loger que des hommes qui vont voter pour lui, le soutenir. Il n'a jamais perdu son siège toutes ces années, il a plus de 80 ans aujourd'hui, il a jamais perdu son siège de parlementaire. Il a dû faire un ou deux discours dans sa circonscription, c'est vraiment, c'était acquis. Et en face, ils font tous pareil. Et ils font ça pareil dans Kingston West, surtout West Kingston, d'où vient Bob Marley, Trenchtown par exemple. Et puis, petit à petit, une guerre se déclenche, c'est-à-dire que non seulement j'ai ma garnison, mais après je vais aller attaquer la vôtre pour chasser les gens de la garnison ennemie, mettre mes supporters à la place et puis gagner des voix. Donc chaque jour, ils commencent par s'affronter, mais ils sont séparés au départ par une rue. C'est votre voisin, c'est votre frère qui vit dans la rue en face. Mais comme à partir du moment où son quartier est affidé à un parti, il n'est plus votre ami. Et si on vous voit traîner dans ce quartier, vous êtes considéré comme un ennemi.
C'est ça.
Parce que petit à petit, ça devient crucial. C'est vraiment l'accès au travail. C'est vraiment protéger vos enfants. Parce que le quartier voisin vient, il tue, il viole. Il y a beaucoup de viols à l'époque. Les seigneurs de la guerre qui prennent le pouvoir opèrent en toute impunité puisqu'ils sont protégés par les politiciens.
Ouais.
Donc vous avez des mecs qui déboulent chez vous en disant ta fille elle vient chez moi, moi j'ai il y a des témoignages hein. Ta fille elle vient chez moi à 6h ce soir, elle a 12 ans
Et on peut rien ce soir faire, c'est parce moi que sinon qu'est-ce que vous faites, tout le monde se fait zigouiller
c'est comme dans tous les milieux mafieux, sauf que là en plus il est vraiment en plus protégé par le politicien. Donc ces gens-là se retrouvent dans des situations où si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Vous-même, si demain on vit dans le même immeuble et que je décide de pas vous défendre quand le type de l'immeuble en face attaque, vous allez me prendre pour un traître. Mmh. Que je sois d'accord ou pas avec vos idées, les idées politiques sont vraiment en second plan. Ces types-là n'en ont pas grand-chose à faire. C'est une question de survie. Mmh. Et comme tout le monde les laisse crever, et ben ils sont obligés de se débrouiller comme ça.
Ouais, ça leur donne un pouvoir.
Et si vous votez pas pour le politicien, vous n'aurez pas de travail puisque c'est lui qui décide de qui travaille, etc., etc.
Alors la violence s'installe en Jamaïque en voyant une image un peu contradictoire avec celle que Bob Marley voulait notamment promotionner. Alors on va écouter une autre chanson.
Bob Marley n'a jamais voulu promotionner une réalité belle et propre. Hein. Attention, ne pas confondre Bob Marley surtout et le Rasta et les hippies. Ça n'a absolument rien. Alors, à voir.
On va en parler parce que justement la chanson que je voulais passer s'intitule Smile Jamaica. Ah, on la commentera, dans un instant. Voilà, 1976, c'était à cette chanson que je pensais. On va l'écouter. Valeur de l'homme, le reggae, une musique politique. Nous sommes en compagnie de Thibaut Arengard. Alors, Smile Jamaica, c'est une exception chez Marley.
1976, réélection de Manley en cours, les élections approchent. La situation dégénère au niveau de la violence, au niveau du de la prise de position. Ça se politise énormément. Le parti dans l'opposition décrit la Jamaïque comme une nouvelle Cuba. Il y a des attentats, il y a des morts. Edward Siaga essaye de convaincre les Américains qu'il faut absolument parler en Jamaïque, que ça va exploser d'un instant à l'autre. Les touristes fuient l'île. Michael Manley n'a plus de devise, n'a plus d'argent, ne sait plus quoi faire. Et tout à coup, au milieu de tout ce chaos, Bob Marley sort cette chanson. Souriez, vous êtes en Jamaïque. Il fait beau, il fait chaud, on est sympa et tout. Tout le monde comprend qu'en fait, c'est une chanson partisane. Il essaye de contrebalancer la vision de la Jamaïque noire et sombre et de dire aux gens, revenez les touristes. Et pour Bob Marley, c'est absolument scandaleux. Le parti dans l'opposition ne s'y trompe pas. Lui fait savoir qu'il n'est pas content de cette chanson. Bob Marley décide quand même de faire un concert gratuit du même nom. Dans la foulée, le gouvernement annonce la date des réélections. 2 et 2 font 4. La veille du concert, quatre assassins entrent chez Bob Marley et tentent de l'assassiner. Ils le blessent. Il est sauvé uniquement par son manager qui prend 7 ou 8 balles dans le dos et qui était devant lui. Donc c'était vraiment sérieux. Ils avaient vraiment l'intention de le tuer. A priori, commandité par le DLP et probablement un petit peu aidé par la CIA. Mm-hmm. Puisque la CIA donc intervient à partir de ce moment-là en Jamaïque d'une manière assez concrète.
Mais alors vous disiez qu'effectivement Bob Marley, cette chanson reste exceptionnelle au sens où Bob Marley n'a jamais, dans d'autres chansons, présenté la Jamaïque comme un pays pacifié.
Il suffit d'écouter les paroles. Alors c'est en anglais, parfois en France on a un peu de mal, mais il suffit d'écouter Bob Marley pour bien voir la Jamaïque qu'il nous décrit. C'est voilà, à part une ou deux exceptions où l'album Kayak est sorti après l'attentat, où justement il a préféré la jouer un peu cool, il a commencé à un peu parler plus d'amour, etc. Mais les chansons de Bob Marley sont apocalyptiques, elles sont sombres au dernier degré, pleines de doutes, pleines même sur Rasta. Enfin, c'est une matière noire les paroles de Marley. C'est pas du tout du fun, c'est pas du tout. Même réécouter la chanson Could You Be Love qui passe en boucle en été, tout le monde danse dessus. Réécoutez bien les paroles, c'est extrêmement ténébreux et c'est ce qui fait que Marley est au-dessus des autres. Il a une écriture exceptionnelle, il a une musique exceptionnelle et c'est pas par hasard. C'est pas en chantant c'est cool, fumons de la ganja, allons sur la plage, qu'il aurait pu avoir une telle résonance dans le monde. Et ça résume absolument pas Bob Marley.
Et le public anglo-saxon, d'ailleurs, lui, avait les paroles. Hein. C'est en France qu'on est un peu
c'est sûr
à côté.
C'est sûr que c'est plus facile. Mais si vous allez dans le monde entier, les gens confondent un peu Rasta et hippie quand même, hein, aujourd'hui. Hein.
Oui, parce que bon, je vois, les cheveux longs, la période, les
années
70.
Avec le temps, la fumette, etc. Voilà. Et puis les Rasta, ceux qui ont réussi à s'exporter économiquement, ont aussi compris que le monde était plus vaste que ce qu'ils pensaient et qu'ils se sont un peu adaptés. Et ils ont vu tous ces blancs qui arrivaient avec des dreadlocks en disant Yéman, one love. Bon, bah, ils se sont adaptés. Ils sont des gens normaux. Ils veulent vivre en paix avec les peuples aussi, ils sont comme tout le monde. Mais au départ, la spécificité jamaïcaine, c'est vraiment d'être une musique locale, ancrée dans la réalité locale, Trenchtown, c'est le cœur de la musique Marley. Il y revient, mais sans arrêt. Dans son dernier album, il a une chanson, elle s'appelle Posthume. Elle s'appelle Trenchtown. Il le répète en boucle. À la fin, même, on n'en peut plus. C'est son obsession. C'est la Jamaïque, encore une fois, des Iliens. Ils sont surtout fascinés par eux-mêmes.
Par eux-mêmes. En un mot, Thibaut Arengard, parce que l'émission s'achève. Politiquement, la Jamaïque aujourd'hui, toujours de la violence?
Toujours. Elle a changé. Elle est sur la route de la drogue. La Jamaïque, c'est 270 gangs en activité, plus de 1000 morts par an pour moins de 3 millions de personnes. C'est un cataclysme et c'est surtout, ils ont aucune porte de sortie économique. Donc, c'est très, très inquiétant. La politique reste en toile de fond, toujours. Mais maintenant, c'est aussi parti dans un délire un peu plus gang classique, une rue contre une autre rue. Chacun essaye de survivre comme ils peuvent, quoi. Voilà, c'est une île qui est un peu, dans une mauvaise posture économique, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Thibaut Ehrengard. Cette émission s'achève. Je vous remercie vraiment, Thibaut Ehrengard, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Reggae et politique dans les années 70, Dread Edition, sorti en 2016. Merci à Cécile Rondeau-Arnaud, à la technique exceptionnellement aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée. Bon été à tous.